Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre podcast numéro 7 consacré à Aki no Taiyo 2013. Et pour parler de la 8e édition du Festival du film japonais contemporain, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Rostac, journaliste à ce film, également membre du jury presse de cette édition. Salut Mathieu.
Salut.
Bah merci de nous rejoindre et de répondre présent à notre invitation pour parler des films de Aki no Taiyo.
Tout le plaisir est pour moi.
De nouveau d'ailleurs, parce qu'on en a largement débattu déjà. Et pour présenter Istasia, le seul membre de l'équipe ici présent ce soir, c'est Nicolas Lemerle. Salut Nicolas,
salut.
Comment ça va?
Salut.
Prêt à défendre les couleurs d'Istasia?
Bah oui, comme toujours.
Alors, le festival du cinéma du film contemporain japonais de Aki no Taiyo, pardon, s'est tenu à Paris du 3 au 21 décembre. Il a présenté 7 films en compétition et quelques autres dont on va parler hors compétition dans des sections classiques. Et vous aurez le plaisir de les revoir en province durant tout le mois de janvier. Le festival passe à Metz, à Strasbourg, à Cannes, à Le Canet et à Saint-Malo. Et tout d'abord, quoi de plus logique d'ouvrir le podcast sur le film d'ouverture qui est Wara no Tate, aka Shield of Straw, aka, bah, il n'y a pas de titre français parce qu'il ne va certainement pas sortir en France. Et en tout cas, c'est le dernier film de Miki Takahashi. Enfin, le dernier, il en a déjà terminé 2-3. Il y a The Outsider qui est en pré-production.
Ouais.
Et celui-ci, c'est donc le film dont vous avez entendu parler parce qu'il a été sifflé à Cannes. Mathieu, Nicolas, vous l'avez vu en ouverture à Aki no Taiyo. Est-ce qu'il méritait les sifflets à Cannes et est-ce qu'il a été un peu mieux accueilli à Aki no Taiyo, Mathieu?
Non, il méritait pas du tout les sifflets à Cannes. En toute honnêteté, moi je m'attendais à un film vraiment. Enfin, pas terrible, à partir du moment où j'avais entendu que du mal de ce film par rapport à la projection à Cannes. Et en fait, non, c'est pas un chef-d'œuvre, bien entendu. Comme souvent avec Takashi Miike, c'est un film de commande qui a été exécuté de manière assez propre, et je trouve que l'idée de ce polar qui pendant les trois quarts du film est complètement amoral puisque l'histoire est quand même assez particulière, je trouve ça assez bien de se permettre de développer un film comme celui-ci en fait. Voilà. Après, au niveau d'un point de vue formel, sur la réalisation, moi, j'ai rien à redire, par contre.
Alors, tout à fait honnêtement, si tu avais été à Cannes pendant la projection, tu ne l'aurais pas sifflé.
Non, je ne l'aurais pas sifflé.
Est-ce que tu serais allé jusqu'à applaudir, comme à la fin de la projection à Aki no Taiyo?
Alors, j'aurais peut-être applaudi en réponse, en représailles au sifflet. Mais après... non, sinon il méritait pas d'applaudissements, non. C'est pas non plus le chef-d'œuvre.
Bah, il paraît qu'il y a eu quand même des débordements. Moi, j'étais pas à cette projo, mais à Cannes, un spectateur s'est levé, donc journaliste a priori, pour dire retourne au Japon, vendre des sushis après la projection du film. Donc on peut dire que ça a quand même été très très violent comme réception, quoi.
Et donc raciste.
Et raciste, oui, en plus. Raciste.
Voilà. Mais il y a eu quand même des applaudissements. Hein. Il y a eu, comme tu disais, t'aurais peut-être applaudi. Pour faire un contrepoint au sifflet, mais il y en a eu quand même qu'on applaudit, je crois, une petite partie.
Hein,
mais...
Oui, toujours. C'est quand même poli. Hein,
voilà, c'est pour ouais, sans coup, doute. Mais...
Depuis les années 2000. Mais toi, Nicolas, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi parle le film? Et est-ce que tu partages l'enthousiasme modéré, on va dire, de Mathieu?
Le film, en fait, c'est l'histoire d'un groupe de policiers qui a pour mission de transporter un criminel, un serial killer, d'un point A à un point B. Et le père d'une des victimes fait une offre de beaucoup d'argent pour faire tuer le serial killer. Voilà, donc ça part de là. Donc oui, donc ce pitch promet en fait un espèce de gros film d'action qui va aller à 100 à l'heure avec plein de rebondissements, plein de suspense. Et au final, c'est un vrai ballon de baudruche, c'est-à-dire que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle pendant une heure, et puis ça... Voilà, ça fait pchit, quoi. C'est-à-dire que le film part à 200 à l'heure, comme le pitch le promettait, ça part en Ferrari, puis ça finit en 4L, quoi. Okay. À la fin, la confrontation finale, qui est supposée être le climax du film, ben on se fait chier, quoi. Bon,
Et
on
c'est
va.
dommage.
Alors,
Ouais.
sur tous les films, comme les films vont être vus par nos auditeurs, peut-être en province, etc., nos auditeurs n'ont pas forcément eu la chance de les voir, on va éviter de spoiler. Donc, on vous promet d'ailleurs de ne pas raconter les fins, les fins de
On n'a
film
pas
pour
raconté la
une
fin.
fois.
On n'a pas raconté la
On n'a pas
fin.
encore, on a,
Non,
pas encore,
pas
encore raconté la
encore.
fin. On y allait peut-être lentement, justement, en 4L, mais on ne l'a pas raconté. Effectivement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de l'avoir proposé en ouverture à Kinotayo d'ailleurs?
Oui, moi je pense que c'est une, je pense que c'est une bonne idée puisque ça permet de d'avoir un film qui n'a pas son pareil dans le reste de la sélection, en fait, enfin dans le reste de, pas de la sélection mais de la programmation. On n'a rien vu de similaire dans la programmation de Kinotayo, mais il faut pas oublier que ce type de production au Japon existe, quoi. Et que quand même Kinotayo c'est censé être le film du film le festival pardon du film japonais contemporain et que donc ça, on est censé représenter tous les aspects et ça c'est un aspect de la production cinématographique japonaise quoi. Donc là une sorte de production de polar ou de film de genre à la chaîne fait par là en l'occurrence NHK si je dis pas de bêtises puisque Miike est sous contrat avec NHK si je dis pas de bêtises.
C'est possible, on
Voilà.
vérifiera.
Mais en gros, c'est ça mérite d'exister, donc du coup c'était logique qu'on le présente et il pouvait exister que sous la forme de film de, enfin un film d'ouverture ou un film de clôture quoi.
J'aurais plus vu en clôture, moi, justement.
Voilà.
C'est plus.
Bah
Moi, je
oui.
suis d'avis, en fait, des festivals, c'est d'envoyer la sauce dès la projection de clôture, d'ouverture. Et après de finir avec un film, même bon là c'est pas forcément un bon film, mais finir en plus avec un film un peu un gros actionneur ou même à Cannes ils devraient faire ça. Bah, ils l'ont fait avec Zulu
Bah,
d'ailleurs,
il fait le four avec Zulu,
ils
et
l'ont
l'année
fait avec
dernière,
Zulu.
il y a 2 ans, c'était Pirates des Caraïbes 3, tu
Voilà,
vois,
donc
donc c'est un peu
c'est
ça.
bien de finir, bien de finir comme ça. Alors, à Deauville, ils avaient par exemple, ils avaient mis The Thieves, qui était le parfait film de clôture pour moi, pour détendre un peu. Et puis quand c'est un bon film, c'est un plus quoi. Bon là, c'est pas le cas.
On a décidé de pas trop parler de La Rosée des Cieux, qui était le film de clôture et qui nous a tous un petit peu
Assoupi.
endormis. Voilà, donc on va rester sur les films de la compétition et les films qui nous ont plu et qui nous ont plu par ailleurs. Voilà, moi, enfin oui, je rajouterais effectivement, moi je suis plutôt d'avis que c'est plutôt un bon choix d'ouverture. Parce que le nom de Mickey peut amener un public qui n'irait pas forcément voir les autres films. Ça reste un film d'action, donc effectivement, il est assez différent des autres films qu'on a vus en compétition. Et d'autant que la réputation que le film se traîne depuis Cannes a quand même pas mal refroidi les distributeurs français et qui risquent pas de le sortir, y compris d'ailleurs les éditeurs DVD, qui sont moyennement motivés d'avoir un film qui a eu voilà, un accueil aussi misérable à Cannes dans leur catalogue. Donc une sortie française est très très compromise par tous ces éléments, et ça fait quand même plaisir de pouvoir le voir sur grand écran, même si je considère que c'est un film très mineur de Takashi Miike, comme pratiquement tous les Takashi Miike depuis au moins 5 ans. Voilà. Donc,
Faut pas oublier qu'il était, il avait de la sacrée concurrence puisque c'était le soir où Fred Keane était présent à la Cinémathèque, donc
c'est vrai.
il n'y a pas grand monde qui est venu le voir.
Oui, en plus ça peut être un public assez voilà, assez proche effectivement de
Ouais.
Fritkin, Cinéma Joie, etc. Et alors l'autre, il y avait quand même du monde à la séance d'ouverture.
Ouais.
Bon, enfin ça a plutôt bien marché. L'autre film qui était un peu prestigieux et hors compétition, c'était Outrage Beyond de Takeshi Kitano, qui lui par contre a fait salle comble. Il me semble que vous l'avez vu à la projection à la Maison de la Culture du Japon, la première. Et il y avait beaucoup de monde. Alors, je vais rapidement résumer le film, mais je vais vous laisser dire ce que vous en avez pensé. Outrage Beyond se passe 5 ans après Outrage, et en gros, rien n'a changé. De nouvelles têtes ont pris la relève des anciennes, mais elles continuent à tomber avec autant de vigueur. Voilà, donc c'est un résumé
C'est bien
quand même
résumé.
très succinct. Très succinct.
C'est bien résumé. Je trouve que ça résume bien le film.
Est-ce qu'au-delà de cette histoire qui est quand même minimaliste, le film vous a plu, Mathieu?
Oui. Oui, moi j'ai eu l'impression de retrouver un peu la vigueur du Kitano des années 90, on va dire, à peu près. Puisque quand il était retourné au polar avec Outrage, moi je me frottais les mains, mais en fait c'était un raté complet, c'était bâclé, on le sentait bien. Là en l'occurrence, il a eu la possibilité de faire quelque chose de plus développé, de plus. Bah, quelque chose, il a eu la possibilité d'achever son projet en fait, et on sent qu'il y a une sorte de maîtrise qui est très plaisante et on n'a pas le côté je cède à la pression en fait et donc du coup je livre un truc qui est bancal quoi.
Tu vois, enfin pour toi, il a fait vraiment Outrage sous la pression des producteurs et il s'est senti plus libre sur Outrage Beyond.
Ouais. Ouais, selon moi, c'est selon moi, hein, c'est ce qu'on m'a expliqué, qu'il avait été un peu pressé en fait par les producteurs,
En tout cas, sur Outrage, ça sent.
notamment pour qu'il soit présenté, si je dis pas de bêtises, à Cannes. Voilà. Et donc du coup, on lui a demandé d'accélérer la cadence. Donc le montage n'était pas terminé. Enfin, il était bâclé, quoi.
Ouais, à Cannes notamment, où le film a été très très mal accueilli
Oui,
aussi.
ouais.
Maintenant, c'est bien, à Kinotaï, on voit tous les films japonais qui se font descendre à Cannes. Donc c'est une séance de rattrapage pour le cinéma japonais. Nicolas, est-ce que toi, t'as aimé le film?
Moi, j'étais déjà pas convaincu par le premier, même si, bon, le côté, justement, il y avait un côté foutraque du fait que le montage était bâclé, qui faisait que ça donnait un espèce de film un peu what the fuck, quoi, où tout le monde trahissait tout le monde, où tout le monde butait tout le monde, enfin voilà, on savait pas qui était avec quoi, même à la fin. Et pour le coup, le deuxième, bah, c'est beaucoup plus maîtrisé, mais aussi beaucoup plus classique, quoi. C'est vraiment une histoire assez bateau. Un clan qui en affronte un autre avec un troisième qui dirige, qui arbitre, en fait. Et puis, c'est ça du début à la fin, quoi. Bon, on s'ennuie un peu poliment. Il y a quelques passages il y a quelques passages très, qui font très kitano, hein. Son humour noir qui revient, qui sont sympas. Par exemple, sans trop spoiler, le mec qui se fait buter, enfin, qui se fait assommer avec la balle de tennis qui lui revient dans la gueule à chaque fois.
Ouais,
Enfin,
je vais jouer là.
voilà.
Ouais, moi
Mais sinon, je trouve que c'est trop classique, quoi. Enfin, j'arrive pas à retrouver le kitano qui me plaisait dans les années 90, quoi. Même la fin des années 80. Voilà.
Pour le coup, j'ai l'impression qu'Outrage. Alors, le premier, je partage un peu vos réserves parce que je trouve le film un petit peu boiteux, plus effectivement dans son montage, dans la construction de ses plans, dans sa réalisation. Autant je trouve le scénario très maîtrisé et là aussi classique. Enfin, c'est une guerre des gangs, tout ce qu'il y a de plus classique dans Outrage. Alors, peut-être revois-le, Nicolas, mais tu verras que tout est parfaitement logique, toutes les trahisons se tiennent, tout sont une raison
Oui,
pour
mais je veux
trahir.
dire, ça m'a plu, hein, dans Outrage, hein, de toutes ces trahisons. Mais ça se tient, mais je veux dire, c'est que ça, quoi. Tout le
Oui,
film, c'est que
exactement.
des trahisons,
Ouais, mais
quoi.
faut pas. Ouais.
Le film narratif se base au niveau des trahisons. Qui va trahir qui, quand, tu vois.
Et
Alors
après.
que dans Outrage Beyond, c'est classique, quoi.
Et
Il se
après,
lâche pas assez pour moi.
dans Outrage, il y a une sorte de plaisir pervers à filmer des mises à mort aussi. Ce qui faisait un peu l'intérêt du film, c'est-à-dire à chaque fois les personnages utilisaient des ustensiles voilà, plus ou moins étranges pour tuer d'autres personnes.
On se
Ce qu'on
souvient de la scène
retrouve un
chez le
peu dans
dentiste.
la scène chez le dentiste, ouais. Ce qu'on retrouve un petit peu dans Outrage Beyond, justement, il y a la scène que t'as citée, Nicolas,
Ah, c'est la plus
il y
drôle,
a un
quoi.
peu
Après,
ça.
les autres m'ont pas tellement marqué.
Et si ce n'est qu'effectivement, le film est beaucoup plus maîtrisé qu'Outrage, hein, et je trouve qu'on retrouve un peu de la mélancolie que Kitano avait complètement laissé tomber dans le premier Outrage, où il y avait un cynisme. Effectivement, on me demande de filmer des mises à mort, je filme que ça. Voilà, donc il le faisait avec un cynisme qui se retrouvait dans les personnages. Et alors, là, moi, la lecture que j'en fais, c'est aussi que cette mélancolie vient du fait qu'il a essayé de sortir du film de genre, du film de Yakuza, et on l'a vu avec sa trilogie introspective dans laquelle il revenait énormément là-dessus. Et finalement, il est obligé d'y revenir sans cesse, un peu exactement d'ailleurs comme le personnage d'Otomo, qui est censé être mort, qu'il a enterré, et par un coup du destin ou du scénario, hop, il revient à la vie. Il veut faire absolument autre chose, et on lui demande bien sûr d'aller tuer des gens et de faire exactement ce qu'on attend de lui. Donc Kitano est un peu là-dedans. Et il y a cette. Voilà, alors c'est pas une mélancolie, mais c'est une tristesse qu'on sent dans le personnage et dans la mise en scène de Kitano à devoir toujours, en gros, servir la même soupe. Et il le fait très bien, enfin, il le fait aussi avec une application plus que dans Outrage, mais cette tristesse à être enfermé dans ce personnage-là se ressent dans le film et lui donne une autre dimension dans Outrage Beyond.
C'est pas faute, enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais après le problème c'est que ça donne un film très sage au final. Enfin, tu parles de mise à mort, il y en a aussi quelques sympathiques dans le film, mais même enfin, au niveau de la mise en image, c'est presque hors champ, ou à part peut-être une ou deux décapitations, même quand ils utilisent la perceuse par
Tu veux
exemple.
du sang, alors,
Bah, je veux
c'est
dire que dans Outrage, ils se lâchaient, quoi. T'avais du sang qui giclait sur les murs, t'avais la scène du dentiste. Alors que là, tu vois, la scène de la perceuse, tu lui mets un foulard, on voit rien, quoi. Donc, finalement, c'est il se retient, quoi. On a l'impression qu'il se retient, on a l'impression qu'il a peut-être, ouais, justement, tu parlais du fait que, une espèce de tristesse ou de mélancolie par rapport à à sa condition de cinéaste, mais, ouais, ça se ressent au final, mais bon, ça donne un film un peu terne, quoi.
Ah, bah, bien, réfléchir, si on regarde les classiques entre guillemets de Kitano, que sont Sonatine et Hanabi, t'as très peu de violence graphique.
Non, je suis d'accord, mais c'est pas les mêmes films non plus. Enfin, c'est pas, c'est-à-dire que moi, je m'attendais à une suite qui soit au même niveau à ce niveau-là par rapport à Outrage. Moi, je compare juste ces deux films-là. Ouais, après, ouais. Ces autres films, c'est différent.
Mais c'est ça, moi, que j'avais justement retrouvé un peu le Kitano des débuts. C'était le côté, bah, donc d'une part la mélancolie, et d'autre part ce côté justement suggéré de la violence qu'on sentait, mais qu'on ne voyait pas absolument full frontal avec...
Exactement, ouais. Moi je trouvais que c'était un petit peu cynique dans Outrage, même si j'ai bien aimé, et que là il le fait avec plus de sincérité, et effectivement c'est le hors-champ... On a vu le hors-champ est plus sincère justement que quand il montre des mises à mort...
On sent que c'est un mec qui est pas... c'est pas forcément un mec qui est très à l'aise avec la violence graphique, parce qu'il y en a dans certains de ses films, mais pas tout le temps. Donc je pense qu'il est plus à l'aise justement dans le côté suggéré, la subtilité, et là il retourne sur des bases saines et solides pour lui.
Le truc qui est tout à fait vrai effectivement, c'est par contre Outrage Beyond est un Yakuza Ega très classique, et la bonne idée de Kino Taiyo était d'accompagner cette projection d'Outrage Beyond d'une sélection de films classiques que Mathieu, tu as vu pour la plupart, pour quelques-uns. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et peut-être nous dire ceux que tu conseilles ou ceux que tu as aimés. Ouais.
Alors déjà, il faut savoir qu'il y avait une sélection qui était très hétéroclite, mais qui représentait bien le Yakuza Ega dans son ensemble, hein, puisqu'on a autant du Ninkyo Ega, donc le Yakuza chevaleresque, donc Yakuza de sabre, on va dire. Arme blanche, que du Jirotsuku Eiga, qui est le film de Yakuza réaliste, en fait, donc dans la rue, avec les mecs en costume, avec la pétoue sous le manteau, etc. Et donc on a ces deux parts-là, plus on a deux épisodes de La Pivoine Rouge, qui est le Yakuza Eiga de femmes. Voilà, donc on avait ces trois aspects qui étaient très proéminents à l'époque, donc c'est très bien, et surtout donc si on devait garder un ou deux Yakuza Ega qui étaient présents dans la sélection classique, moi je dirais qu'il y aurait donc le cimetière de la morale d'abord, qui est un peu le chant du cygne du Yakuza Ega, qui est réalisé par Fukasaku en 75, qui est tellement cynique qu'il amorce un peu comme la horde sauvage amorçait la fin du western en quelque sorte avec son cynisme. Le cimetière de la morale amorce la fin du Yakuza Ega avec des mecs qui n'ont plus aucune dignité, plus aucun honneur, et en fait c'est vraiment la fin annoncée du Yakuza Ega. Et le second c'est Amporelu qui lui pour le coup annonce le début en quelque sorte de cette espèce de mouvement de Fukasaku qui est la sécheresse de la rue, en fait le pavé de bitume, quoi, et le côté ghetto, on va dire, du Yakuza Ega, et surtout Amporelu, c'est 64, donc c'est très très vieux, et surtout on est en plein mouvement dans la nouvelle vague japonaise, et Fukasaku adapte les préceptes de la nouvelle vague japonaise, les adapte au Yakuza Ega, et donc ça donne un film d'une ambition formelle complètement folle, en fait. Donc si je devais garder cela, Donc si je devais garder un ou deux films, ce serait Le Cimetière de la Morale et Homme pour Elou.
Ouais, ça tombe très bien parce que autant... Alors il me semble que là, les films de Yakuza étaient uniquement visibles à la Maison de la Culture du Japon. Néanmoins, comme il va y avoir une rétrospective Fukasaku on met à la Cinémathèque, ça sera l'occasion donc de les voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et alors de même, on va revenir sur les Ozu qui étaient présentés et qui vont être édités par Carlotta. Puisque le festival, aussi dans la section hommage, a présenté Fleur d'Équinoxe et Le Goût du Saké en février lors de leur sortie en vidéo pour gagner un peu de temps et parler des films passionnants qu'il y avait en compétition juste après. Et pour finir avec tout ce qui était hors compétition, il y avait un dernier film qui était présenté, alors je ne sais pas si c'est une avant-première ou c'était juste hors compétition, qui était Oshin.
Je pense qu'il sortira jamais en France.
Et donc que tu as vu, et
83-84 n'a jamais été distribué en France, et pourtant dans beaucoup de pays en Europe et ailleurs d'ailleurs, mais en France, peanuts. Mais non, j'ai vu le film, j'ai bien aimé, je trouve que c'est un beau film classique, peut-être un peu académique, mais avec de beaux personnages, très formellement assez jolis, avec une petite actrice encore assez bluffante comme on a l'habitude dans le cinéma japonais. Voilà, j'ai bien aimé.
Après avoir évoqué tous les films, enfin quelques films hors compétition, puisqu'on ne les a pas tous évoqués, il y avait 22 films au total. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est que sur ces 22 films présentés à Kino Taiyo en 2013, il y avait 7 films en compétition officielle. Ce que je vous propose de faire, c'est de les énumérer et pour chaque film, faire un petit tour de table pour savoir si ce que vous en avez pensé, si ça vaut le coup. On va les prendre par. Vous avez un ordre particulier, par ordre de préférence,
Du moins bon au meilleur.
Du moins bon au meilleur, on y va.
On n'a pas tous le même moins bon et le même meilleur.
Enfin, le moins bon, je pense qu'on est tous d'accord.
Bon, on va commencer très rapidement alors sur The Little Girl in Me. Voilà. Et effectivement, qui est sortant de là, on s'est un peu demandé comment il était en compétition, parce que même si je pense que même si on peut avoir des réserves sur les autres, celui-ci était quand même techniquement tout à fait inférieur aux autres films. Donc c'est Little Girl in Me, c'est réalisé par Tsuji Kubota. Et ça parle d'un jeune salaryman qui se fait humilier au travail, qui est obligé de démissionner, qui pense au suicide, qui s'isole dans sa chambre pendant quelques heures, quelques jours dans le film peut-être, mais c'est ce qui me semble.
Jours.
Et qui va sur, au hasard de ses recherches sur un site internet, tombe sur un site de travestissement et décide de se travestir, donc de s'habiller en femme, ce qui lui amène une nouvelle liberté ou pas. Donc, je ne vais pas dire qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que vu que c'est le premier film dont on parle, donc le moins bon, vous savez ce qu'on en a pensé. En tout cas, que penser de ce film ?
Il n'y a pas grand-chose à penser de ce film, si ce n'est que tout est à peu près raté en fait dans le film, puisque l'histoire qui aurait pu être quelque chose de très bien, un sujet qui est rarement traité au cinéma et qui pourtant mérite qu'on s'y attarde, là est complètement survolé. On a l'impression que c'est un mec qui maîtrise pas du tout son sujet, et puis en plus au-delà de ça, d'un point de vue technique, le film est complètement raté quoi. Enfin, et pour le coup vraiment vraiment raté quoi, c'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont ratés
techniquement.
Ouais, absolument. Donc c'est presque, si on voyait pas la perche rentrer dans le cadre quoi. Enfin, c'était
Nicolas,
là tu pointes le gros défaut du film. Pour moi, c'est que ça fait film amateur quoi. C'est doit être, je sais pas combien de temps a duré le tournage, je sais pas si vous êtes au courant. Non, pas du tout.
Mon avis,
ouais, enfin voilà, on sent que ça a été un peu torché à la va-vite. Après, le film, il n'y a pas beaucoup de cinéma en fait dans le film. C'est très, même si c'est très amateur, c'est très plan-plan. Après, j'arrive quand même sur la fin à être touché par les personnages, à y trouver quand même quelque chose qui vaille le fait qu'on ait fait ce film, quoi. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas le film le plus marquant du festival.
Non, mais je me suis, on ne peut plus d'accord. Moi, c'est un peu ce que j'ai. En sortant avant les projections de Kino Taiyo, il y avait des pubs pour des restaurants en fait qui étaient assez voilà institutionnels et amateurs. J'avais l'impression de toujours voir la même image que dans les pubs qu'il y avait avant. Et effectivement, alors le réalisateur ne maîtrise ni son sujet, alors ni son film, parce que le film est techniquement raté comme on l'a dit, ni son sujet, parce que ça reste très superficiel sur le travestissement, sur l'exclusion, sur ce que c'est de se promener dans une rue. Alors je ne sais pas ce que ça fait exactement, mais en voyant par exemple Laurence Anyways, on a conscience du sujet, enfin du regard des autres quand on voit le film. Là, on en est très très loin. Enfin voilà, on effleure tout juste la thématique. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a un manga de Hojo qui s'appelle Family Compo, qui est sur la même thématique au Japon et qui lui pour le coup est très réussi. Alors étonnamment, j'ai lu quelques commentaires sur Facebook du festival Kino Taiyo, donc il y a des gens qui ont aimé le film. Donc si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact ou à laisser vos commentaires, je serais curieux de savoir ce qui a pu vous plaire dedans. Donc on a dit qu'on partait du moins bon au meilleur, donc au numéro 2. Je propose de parler de The Great Passage.
Je suis pas d'accord.
Histoire de faire hurler quelques personnes. Donc The Great Passage, c'est le film de Ishii Yuya qui parle d'un jeune homme extrêmement timide, qui a même du mal à communiquer, qui
Comme beaucoup de personnages de Kino Tiger, en fait.
Comme beaucoup de personnages du film, ouais. C'est le cas dans le film précédent,
ouais,
d'ailleurs.
Ouais.
Et qui se retrouve finalement embarqué dans l'édition d'un dictionnaire qui va mettre plusieurs années à se faire. Et finalement, il va apprendre à se faire des amis, à trouver sa place dans la société, à se passionner pour quelque chose, et donc à exister par lui, et surtout à apprendre à utiliser les mots à travers cette expérience. C'était le film qui était présélectionné par le Japon pour les Oscars. Bon, finalement, il n'y sera pas. Donc, c'est un film qui est quand même assez important dans le paysage cinématographique japonais. Est-ce que pour vous, c'est le deuxième moins bon film de Kino Taiyo, ou est-ce que je me trompe complètement?
Oui. Non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est un superbe film sur les mots, sur le langage, sur l'évolution de notre manière de communiquer. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est comment le réalisateur, à travers cette histoire qui pourtant paye pas de mine, arrive à avoir un regard sur l'évolution de la société japonaise depuis les années 90 jusqu'à la fin des années 2000 à peu près. Parce que le film se déroule sur 10 ou 15 ans. Je trouve que déjà le film est superbement joué. Le personnage principal... l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle.
Tu veux dire Matsuda
Oliweyer? Ouais. il arrive en fait à intérioriser un peu toutes ses émotions, puis à les faire ressortir au fur et à mesure dans le film. Et je trouve qu'il y a une simplicité dans son jeu qui m'a beaucoup touché. Et sinon, on va parler aussi d'Ao Miyazaki, forcément, qui est... des plus jolies actrices japonaises, sans qu'on viendrait, qui est aussi le pendant féminin du film, qui est absolument superbe dans le film. Et donc, en fait, le film parle de l'évolution de notre manière de communiquer, mais aussi de comment s'intégrer dans notre société en suivant sa passion, quoi. Et je trouve que c'est une morale assez saine, en fait, de présenter ça comme ça. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le film pour ça.
Mathieu, tu partages cet avis?
Absolument.
Le film.
Je suis absolument d'accord. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce film, c'est le comparatif que j'ai trouvé par rapport au cinéma, c'est-à-dire que le sujet qu'on traite, la base, c'est la grammaire, enfin c'est l'écriture, la façon dont elle évolue, et c'est quelque chose qui prend un temps fou. Et finalement, on se retrouve à avoir, par ce dictionnaire, qui met 15 ans à être créé, une sorte de reflet du cinéma, qui sont souvent des œuvres qui mettent du temps à aboutir, et surtout qui ont une grammaire propre, et qui évoluent tout le temps. Et je trouvais que c'était intéressant qu'il y ait cette sorte de pont, en fait, de par le sujet, entre le cinéma et l'écriture, en fait. Voilà.
Oui, et puis en plus, même au niveau de la mise en scène, il y a une espèce de côté fabriqué, comme ça, qui prend du temps. Il y a aussi une espèce de... Au début, c'est très resserré autour des personnages. Par exemple, l'endroit où il crée le dictionnaire, où il récolte tous les mots, c'est un espèce de bureau rempli d'étagères, rempli de bouquins partout, où ils sont une espèce d'atelier, comme ça, où ils sont très resserrés. Et puis, au fur et à mesure, on voit que le cadre s'élargit un peu, de plus en plus. Quand on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui est impliqué sur le projet... je trouve que le cadre s'élargit autour des personnages, on voit qu'ils s'épanouissent, donc le cadre s'épanouit aussi autour de ces personnages-là.
Bah, autant, là je suis d'accord parce que c'est assez cohérent avec le fait que le personnage s'ouvre au monde, et donc finalement le cadre s'élargit à de nombreux personnages. Après je reviendrai sur deux choses que vous avez dit, il y a déjà cette question de la temporalité. Moi j'ai pas vu le temps passer dans le film en fait, enfin je trouve que le film utilise un procédé... Qui est l'ellipse en fait, c'est-à-dire qu'on a une première partie qui est le personnage qui découvre sa passion, il y a une ellipse de 8 ans, ou de 15 ans, je ne sais plus exactement, et finalement on voit les répercussions, ce qui fait que le film ne travaille pas du tout la durée, mais montre juste deux moments dans une durée, donc crée une illusion de durée. Donc ce travail du temps, moi je ne l'ai pas senti. Après la thématique effectivement de l'évolution du langage cinématographique, par l'évolution du langage, c'est une thématique extrêmement intéressante, mais dans ce cas-là, pourquoi le filmer comme si on était en 1960 et qu'il ne s'était rien passé dans le cinéma depuis, on va dire, Ozu, ou je ne sais pas. Enfin, c'est quand même extrêmement classique dans la construction de la mise en scène. Effectivement, enfin, on repère cet élargissement du plan, mais il n'y a aucune inventivité propre, et y compris quand quand les personnages vont chercher des mots, on ne sent pas par la mise en scène cette évolution du langage. Tout passe par quelques scénettes où les personnages vont recueillir des mots. Alors, ils cueillent des mots nouveaux pour le dictionnaire, mais il n'y a pas de traduction cinématographique de cette évolution. Moi, j'ai trouvé en fait le film à la fois très classique, à la fois très plat dans son contenu. Moi, ça m'a vraiment fait penser à un shonen avec quelqu'un qui n'a pas sa place socialement et qui découvre sa place par une passion. Et finalement, on a le début du shonen, parce que c'est le début. On zappe 15 tomes et on se retrouve au tome 15 avec l'aboutissement créatif du personnage. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'est un film extrêmement, extrêmement convenu, plutôt bien fait, sans, je l'ai regardé sans ennui, mais très trop convenu pour moi. Bon, il faut dire quelque chose pour les défendre, parce qu'on va pas finir sur une note négative.
Je suis pas d'accord, parce que même s'il y a de l'ellipse, en fait, moi je me suis imaginé en fait comment ça après en repensant au film, comment ça aurait pu être entre cette première grosse partie et cette deuxième grosse partie. Et finalement, je trouve que tout ce qui est intéressant est dit dans ces parties-là, en fait. Il n'y a pas besoin, après, on ressent un peu, il y a juste, par exemple, au départ, on voit qu'ils travaillent sur ils écrivent forcément, ils sont dans les années 90, il n'y a pas encore beaucoup il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas Internet, c'est juste le début. Donc, ils travaillent c'est artisanal, quoi, voilà. Et puis, quand on passe à la deuxième partie, on voit que ça y est, ils ont des ordinateurs, ça va beaucoup plus vite. Il y a une vraie évolution aussi au niveau des objets, dans le décor et tout ça. Et je trouve que rien qu'avec ça on sent justement le passage du temps et l'évolution des mots. Et puis il y a aussi pas mal, tu dis qu'il n'y a pas de scène cinématographique qui représente cette évolution de notre manière de communiquer, mais par exemple la scène où ils sont dans un McDonald's ou je sais pas quoi, enfin dans un fast-food et
qui vont écouter les jeunes.
Oui, quand ils écoutent les jeunes.
Sur le dialogue. Enfin, finalement.
Non, parce qu'il y a un jeu sur le cadre avec une espèce de quiproquo où elle pense que.
Ouais, c'est comique, mais on voit. Par exemple, quelque chose de tout simple. On a parlé de l'évolution qu'il y avait dans la mise en scène pour l'ouverture du personnage au monde. Mais il filme la première partie, la deuxième partie de manière exactement identique, enfin, avec la même grammaire cinématographique en fait. Il n'y a pas une évolution dans la mise en scène qui montrerait qu'on est passé d'une époque d'un certain cinéma, de celui des années 90, où c'était filmé comme ça, ça pourrait être artificiel, un peu du pastiche, au cinéma des années 2000, qui est filmé d'une autre manière. Finalement, les deux sont filmés de la même façon. C'est en ça que je trouve que ça manque un peu d'audace et d'inventivité en fait. Bon, on va passer.
Simplement, le réalisateur n'a pas pris parti de représenter sa mise en scène comme ça. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est quand même une belle histoire. Il y a une belle histoire d'amour déjà. Je trouve que par exemple la rencontre entre le héros et la fille de la propriétaire. Qui est assez magnifique. Puis il y a le personnage aussi du chat qui est une espèce de lien, qui représente une espèce de lien entre ces deux personnages, parce que c'est grâce à lui en fait qu'il la voit pour la première fois, parce que le chat se barre sur le balcon et puis il veut aller le chercher, et puis là on voit le chat qui est dans les bras du personnage joué par Hayao Miyazaki. Et je trouve qu'il y a une espèce de jeu comme ça sur les liens qui se créent à travers cette passion. Parce qu'elle aussi, elle a une passion, elle est fan de couteaux, elle travaille dans un restaurant de sushi, je crois, et justement, comme elle a cette passion des couteaux, et lui, cette passion des mots, je trouve qu'il y a une espèce de jeu entre les deux, et ils s'acceptent mutuellement. Finalement, c'est un peu ça, l'amour, c'est de s'accepter mutuellement, de faire des sacrifices pour l'autre.
En fait,
je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans le film.
Ce que je reproche un peu, c'est plus cette morale, finalement, très traditionnelle japonaise, qui est qu'à partir du moment où on s'implique dans quelque chose, on doit pouvoir sacrifier tout le reste pour s'accomplir dans cette chose. Et une sorte de...
On ne doit pas forcément, mais là, il y a une acceptation des personnages.
C'est ce qu'ils font. Il y a quand même une scène, alors c'est dans le dernier tiers du film, où ils doivent finir leur dictionnaire, pour des raisons narratives extérieures. Mais en tout cas, toutes les personnes dans la pièce qui sont pourtant un peu extérieures à la production de dictionnaires acceptent de travailler jour et nuit sur ce dictionnaire. Et il y a ce côté-là qui est une espèce d'absolu dans ce dans quoi on s'incarne. Enfin, il faut s'incarner complètement dans sa passion. Moi, au contraire, que je trouve pas complètement sain. Et je pense qu'il y a un peu ce caractère excluant de la passion japonaise pour quelque chose qui fait que bah, la vie a quand même d'autres facettes que uniquement le travail et s'accomplir par le travail. Et beaucoup de films japonais, dont The White Passage, nous montrent un petit peu cette
Parce qu'ils
morale-là.
ont, enfin, ils ont, au Japon, ils ont une mentalité qui est assez tournée par le travail. Ça, c'est pas nouveau, mais pour moi, tant que les personnages s'épanouissent et qu'on les voit s'épanouir, il n'y avait pas de souci pour moi. Et c'est ce qu'ils montrent, en fait, c'est des personnages épanouis. Donc, au final, ça reste ça.
Ouais, alors pour le coup, là, je vais plutôt prendre le parti de Victor, puisque pour le coup, c'était cette fameuse histoire de. En plus, tu prends la scène exacte des étudiants qui se sacrifient corps et âme pour l'aboutissement de ce dictionnaire. Ça sonne un peu faux quand même. Enfin, il y a un côté.
Ah non, il...
C'est une sorte de ressort scénaristique un peu trop évident en fait.
C'est vrai que ça fait shonen, tu disais que ça faisait shonen.
Ouais.
Alors, c'est une scène de shonen.
Après, moi,
il faut terminer le truc et toute
c'est
l'équipe est derrière.
Ouais, mais ça ne me dérange pas plus que ça finalement, parce qu'ils comprennent que c'est quelque chose d'important. Bon, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit ces personnages, c'est toutes ces personnes qui viennent les aider pour travailler jour et nuit, machin. C'est vrai qu'il n'y a pas d'introduction avant de ces personnages, donc on peut se demander qu'est-ce qu'ils foutent là, pourquoi ils les aident.
Et puis après, c'est peut-être une façon de réfléchir très française, mais en plus, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à y gagner à faire ça? À part gagner à la route.
Justement,
c'est sûr.
On n'a pas la même mentalité en fait.
La différence.
Absolument, absolument, mais. Il y a ce fameux goût du sacrifice, mais
moi qui me gêne toujours.
Est-ce qu'il n'est pas poussé à outrance là dans ce film-là? Est-ce que finalement, est-ce qu'on est sûr que 25 étudiants iraient jusqu'au bout, coûte que coûte, pour aboutir, pour finalement donner gain de cause à juste un mec? Parce que c'est ça le fond de l'histoire. C'est juste permettre au héros d'avoir le beau rôle. C'est un peu ça. Ou en tout cas qu'il accomplisse sa mission comme il s'en était investi il y a 15 ans, enfin 15 ans auparavant, quoi. Donc est-ce qu'il y a 25 personnes qui seraient capables de faire ça? Je sais pas. Enfin...
En France, je suis pas sûr.
Non, en France, c'est sûr que non.
Mais bon, on n'a pas la même mentalité, en fait.
Je sais pas.
Après, il faudrait aller vivre en immersion au Japon pendant 10 ans pour vraiment...
C'est vrai qu'on a, on a, on a, on a affaire parfois dans le film à quelques ressorts scénaristiques un peu faciles, un peu...
Mais c'est aussi ça, peut-être aussi le problème. C'est-à-dire que moi, ça me pose un peu problème moralement par rapport à cette vision de la société japonaise. Et c'est peut-être justement s'il y avait eu cette perception de la durée différente, s'il y avait eu des scènes pour introduire les autres personnages, peut-être qu'on verrait cette scène différemment. Voilà, on comprendrait plus les enjeux, les choses seraient posées différemment. Et à mon avis, le sens de l'échec de cette scène, c'est qu'il n'y a pas cette temporalité qui est assez ressenti par nous en tant que, enfin par moi en tout cas en tant que spectateur, pour saisir l'importance pour l'ensemble de ces personnes du projet du dictionnaire. Alors une autre passion présentée à Akino Taiyo, c'était la photographie. Donc on a vu dans un autre film dont on va parler, mais surtout dans Japan Lies, qui est un documentaire sur Kikujiro Fukushima, qui arrivait à 90 ans à photographier. Bah, pratiquement toute l'histoire contemporaine du Japon de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il continue, il continue à exercer. Et il y a un personnage assez atypique, c'est le seul documentaire de la sélection. Est-ce que c'était une bonne pioche au niveau documentaire, Mathieu?
Alors, le sujet se suffisait en lui-même, puisque bon, l'histoire de Kikujiro Fukushima est quand même assez dingue. C'est un mec qui a 70 ans de carrière et qui a traité, bah, donc, comme tu disais, tous les sujets du Japon moderne, en fait. Donc on est sur un sujet qui était extrêmement alléchant, mais qui est traité de manière très conventionnelle, qui aurait sans doute mérité d'être un 52 minutes sur Arte ou France 5, mais qui mérite pas d'être au cinéma et qui, sous la forme d'un film, est bien, bien trop long et pas assez inventif. Voilà. On a beaucoup de documentaires qui sortent au cinéma qui sont un montage alterné entre on interviewe le personnage principal et ensuite on met des images d'archives. Là, ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que ce sont des photos en plus. Et que donc la photo, c'est pas mobile, c'est quelque chose de fixe. Donc ça rajoute à l'aspect stoïque du film en fait. Et c'est pas ça le dessert plus qu'autre chose. Voilà.
Bah, j'ai rien à rajouter, personnellement. Je
Moi, je l'ai pas vu, donc
je l'ai pas. J'ai vu, mais on est absolument
donc c'est un film à voir, c'est un film qui est très enrichissant. Honnêtement, on apprend beaucoup sur le Japon moderne, notamment. Et puis ce personnage haut en couleur de photoreporter de plus de 90 ans qui continue à s'agenouiller pour aller photographier des manifestants à 92 piges, il y a quelque chose de d'attachant, mais pas besoin de se déplacer au cinéma pour ça. Voilà.
Absolument, donc on va arriver au bon film maintenant, parce qu'on a un peu dit du mal. Bon, The Great Passage, j'avoue que c'était une petite boutade, comme
ouais.
Voilà, je suis le seul à ne pas avoir aimé. Et là, on va voir que forcément, on n'est pas non plus d'accord sur les bons films. Donc, en parlant de The Drudgery Train, qui est un film donc de Nobuhiro Yamashita, qui raconte en fait les. Ça se passe encore dans les années 80. Tel qu'on pourra en reparler bah, quand on va parler de Story of Yonosuke, enfin, qui se passe aussi dans les années 80, de l'importance des films de Kinotayo qui se passent dans un passé proche, hein. Et c'était aussi le cas d'ailleurs pour The Great Passage. Donc c'est sur les dérives d'un jeune homme qui est ouvrier dans les années 80, qui vivote enfin voilà, d'à peu près n'importe quoi, et c'est son quotidien entre son existence assez misérable, le fait qu'il passe la moitié de sa vie dans des sex shops et des peep shows, et contrebalancé par une passion pour la littérature et la lecture. Voilà, est-ce que cette histoire vous a touché? Je sais que je n'utilise pas forcément le bon terme pour vous.
En fait, c'est ce film-là qui a eu le prix pour la photo, enfin de la photo à
Absolument,
Kinotayo.
ouais.
Enfin, j'essaye de comprendre encore pourquoi, parce que enfin, je trouve pas grand-chose d'intéressant dans la photographie du film. C'est enfin, une photo qu'on a déjà vue 1000 fois dans ce genre de sujet. Et pareil pour le film, en fait, j'ai l'impression que c'est le film que j'ai vu 1000 fois déjà. Pas forcément dans le cinéma japonais, mais dans le cinéma
Et
en
je défends
général.
The Great Passage,
Non,
alors,
non, parce que
pour
The Great Passage, un film
être
sur un groupe de personnages qui fait un dictionnaire pendant 15 ans, moi je le vois pas souvent, par exemple.
Oui, mais
Mais
ça, c'est le thème, hein.
oui, mais je te parle même, là je te parle des thèmes du film qui sont déjà vus 10 000 fois, et en fait, je n'arrive à m'attacher à aucun personnage dans ce film. Je n'ai aucune attache émotionnelle, donc à partir de là, je suis complètement hermétique. Voilà, c'est tout. Mais comme un autre film dont on va parler ensuite, mais voilà.
Dans les bons films aussi, donc je
Mais
pense
bon.
que tu partages ce point de vue.
Oui, c'est vrai qu'il y a ce manque d'empathie pour le personnage principal notamment, qui moi, à mon sens, est complètement antipathique, alors qu'on est censé le comprendre, on est censé se mettre à sa place, avec ce personnage d'outcast, et que finalement, enfin, pour moi, en tout cas, ça a été totalement l'inverse, et que j'ai pas réussi à me mettre à la place du mec, et que je trouve que c'est un raté et qu'il ne mérite pas autre chose que d'être raté. Enfin, tu vois, je l'ai ressenti comme ça. Et après, dans le film en lui-même, au-delà du simple personnage principal, je trouve que ça manque de, je sais pas, ça manque de lien. Les personnages sont pas, les relations entre les personnages sont pas abouti. Il y a cette fameuse bluette entre le personnage principal et la jeune fille qui travaille dans la librairie, qui aurait peut-être mérité d'être un peu plus approfondie, surtout qu'on se rend compte qu'elle en pince peut-être pour le meilleur ami du personnage principal. Et finalement, ça fait une sorte de triangle amoureux qui aurait pu donner lieu à un truc très intéressant, mais qui finalement n'est pas du tout approfondi, quoi.
Ouais, moi, c'est ce caractère un peu bancal, finalement, que j'ai bien aimé. Moi, ça me dérange pas, au contraire, de suivre un personnage qui m'est complètement. Alors, c'est vrai que le personnage est antipathique. Il y a une identification qui est complètement impossible. Après, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le personnage n'est jamais excusé par ses actions. Il est montré tel qu'il est, c'est-à-dire, enfin, voilà, ça peut être un salaud. Dans cette relation avec cette jeune femme, on comprend que lui, enfin, voilà, est très attiré par elle.
Il y a même une quasi-tentative de viol à un moment. Et
Ouais.
le personnage n'est ni excusé par le personnage féminin, ni excusé par le spectateur, ni par la mise en scène. C'est-à-dire que le personnage, le réalisateur le regarde en fait vraiment, je trouve, avec la bonne distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de cynisme dans le portrait qu'il en fait. Et
Il n'y a rien en fait,
il le regarde
c'est
juste
plat,
vivre.
il n'y a rien. Il montre un personnage, voilà, super.
Oui, il montre un personnage, mais je trouve que c'est important d'avoir cette recréation d'une vie dans une certaine forme de banalité. Et effectivement, cette médiocrité existe aussi. Et tout le procédé du film va être de voir comment, effectivement, ce personnage peut transformer cette médiocrité. Moi, je trouve la fin justement, extrêmement belle. Enfin, là, le film ne l'est pas forcément, mais en tout cas, la fin est extrêmement intéressante. Je vais pas le dire, mais dans la manière dont le personnage peut s'en sortir, et tout d'un coup, il y a le pouvoir de l'imagination qui prend le dessus sur le réalisme qu'on a vu à l'œuvre pendant tout le film. Et en ça, je comprends pourquoi aussi le film a eu le prix de la photographie. Je trouvais qu'il y avait des vraies idées de mise en scène. Il y a une scène que j'aime beaucoup, qui est une scène où le personnage se fait passer à tabac
Oui, bah,
dans un.
moi c'est la seule scène qui m'a un peu sorti de ma torpeur en fait, que je trouve assez géniale, avec comme tu disais le plan où ici le mec sortit à travers le suivre à travers le mur et puis le voir re-rentrer dans la scène, c'est assez génial. Mais après.
Voilà, donc il y a quand même un procédé une idée de mise en scène qui fait que finalement un personnage arrive hors champ et que la caméra suit ce hors champ alors que le personnage est derrière un décor. Comme ça semble très abstrait. Quand on voit le film, c'est une idée finalement très simple. Et en même temps, il y a ce côté un peu farfelu, un peu fantaisiste qui des fois combat le réalisme du film. Et j'ai trouvé ces deux antipodes qui essayent de coexister dans la mise en scène du film, extrêmement réussi. Donc moi, c'est un des films que j'ai beaucoup aimé, effectivement, à Kino Taio cette année. Si ce n'est effectivement que c'est un film très difficile parce qu'on n'a aucune sympathie. C'est-à-dire qu'on n'a aucune sympathie dans le sens d'empathie avec tout ce qui arrive dans le film.
Ouais.
Non, je suis pas. Pardon. Je suis pas contre l'idée d'avoir un salaud en guise de héros. Il faut que ce soit un salaud lumineux. Faut qu'il y ait quelque chose
Voilà.
de plaisant.
Un loser
Enfin,
magnifique.
il faut
Mais
qu'on
c'est un loser, mais pas
il faut
magnifique.
qu'on a, enfin, il faut qu'on aime le détester.
Voilà.
Tu vois. Et là, ça ne fonctionne pas.
Bah oui. Mais parce qu'il n'est pas héroïsé, justement. Il n'est pas
Ouais, mais
héroïsé,
le
il n'est pas
fait. Oui, mais
iconisé.
si je veux de la banalité, si je veux de la banalité, je préfère aller me regarder un film d'Éric Rohmer. Tu vois, je trouve que ce sera plus abouti, par exemple. Parce que là, pour le coup, on est dans la banalité, on est dans le quotidianisme.
C'est pas si banal,
Mais
Romain.
non, mais bien sûr, mais c'est ce que je veux
Ouais,
dire.
c'est pas.
Mais
Enfin, je trouve que c'est
quand
peut-être.
si on est dans la banalité, dans le quotidianisme, autant qu'à faire, ça n'empêche pas que ce soit bien fait. Voilà. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est pas bien fait, c'est pas mené de manière très, enfin, c'est pas réussi, quoi.
En fait, ça m'a fait beaucoup penser à un film qui était au festival coréen, là, à Paris, cette année, qui s'appelle All Bark, No Beat, All Beat, je crois, ça. Et c'était un peu le même style, enfin, c'est pas la même histoire, mais ça raconte aussi l'histoire d'un jeune qui veut être un peu le caïd de son quartier, mais il y a son ancien chef qui revient et qui veut reprendre sa place. Donc lui, il se fait un peu humilier pendant tout le film. Et au départ, on est assez antipathique avec ce personnage qui se la pète et tout. Et au final, c'est bien mieux. Même si le film n'est pas terrible, hein, mais c'est bien mieux au niveau de ce personnage-là parce qu'il y a une empathie qui se crée. C'est un salaud le personnage, c'est un mec qui veut se pa faire passer pour un petit caïd. Mais il y a une empathie parce qu'on comprend par le jeu d'acteur et par la mise en scène toute l'espèce d'envie. On comprend pourquoi il est comme ça, par son jeu d'acteur. Alors que là, je trouve que déjà l'acteur n'est pas terrible, je trouve. Enfin, je sais pas, il joue toujours la même chose, quoi. Il joue le salaud, quoi, mais il n'y a rien derrière, il n'y a rien derrière, je trouve.
C'est
C'est pas
pas
très
un
concluant, quoi.
salaud, c'est pas un méchant de cinéma,
Non,
justement,
mais c'est
c'est quelqu'un d'extrêmement
un
bizarre,
goujat,
médiocre et
quoi.
banal. Et moi, je trouve que ça soit bien que le film résiste à cette empathie, résiste à une explication du pourquoi le personnage est comme ça, même s'il y a quelques bribes d'explications, et finalement pour juste nous montrer ce qu'il est à un moment donné et ce qui cohabite en lui. Et moi, je trouve qu'on le sent, enfin,
On
ce qui essaye d'exister, quoi.
aurait aimé comprendre pourquoi il est comme ça. Et
Bah.
c'est évoqué, c'est effleuré dans le film.
Il n'y
Et
a pas de questionnement, quoi.
voilà, on sait pas. On sait, enfin, c'est juste effleuré. Et c'est bon, c'est pour ça qu'il est comme ça. Voilà.
Ah, c'est pour ça, c'est quelque
Ouais.
chose qui est là,
Un
pareil,
petit
comme le
peu.
personnage est là, et cette chose est là.
Ouais, mais il n'y a pas d'approfondissement, il n'y a pas de questionnement, quoi. Il n'y a pas de. Y a pas d'étude. Le père, il est évoqué une fois au début, et puis après, peanuts, quoi. C'est. Voilà,
Oui,
quoi.
on pose ça là, Et on le tient pour acquis, quoi.
Il parle même pas, lui, il parle même pas de son père. À un moment, il aurait pu avoir une scène.
Alors,
il parle
bon,
son
parce père. Que là, ça va devenir un peu obscur pour les gens qui n'ont pas vu le film.
Oui, oui.
En fait, son père était un délinquant sexuel. S'est fait condamner, donc on imagine que c'est pour viol. Je sais même pas si c'est dit.
Je sais même pas.
Voilà. Et le personnage est toujours peut-être sur le fil du rasoir à cause de ça. Mais en même temps, moi, j'aime bien aussi le fait que ça ne soit pas insistant là-dessus, qu'il n'y ait pas d'explication, qu'il n'y ait pas une explication unique au comportement du personnage, qu'il n'y ait pas non plus de déterminisme, parce qu'on ne nous dit pas, c'est parce que son père est comme ça qu'il est comme ça.
Ouais, mais justement, c'est ça le problème en fait, du film, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien, en fait. Tu disais qu'il n'y avait pas de cynisme, pas de... Il y a pas... En fait, c'est plat, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de position, quoi. Il n'y a pas de point de vue.
C'est
pas
neutre.
C'est neutre. C'est la Suisse, quoi.
Bon, bah, donc on n'est pas d'accord, comme on le voit. Et alors, l'autre film qui posait la même question, est-ce qu'on peut faire un film, est-ce qu'on est obligé d'aimer les films aimables, et est-ce qu'on peut faire des films que l'on peut aimer avec des personnages que l'on n'aime pas du tout, c'était, c'était un peu compliqué ça. C'était donc Bozo de Omori Tatsushi, qui est également présenté. Et je pense qu'on va tenir à peu près le même discours sur A Drudgery Train, puisque j'ai beaucoup aimé, et je crois que vous avez quelques réserves également.
Beaucoup de réserves, oui.
Alors moi, c'était pas pour les mêmes raisons que j'ai pas apprécié Bozo. C'était d'abord sur l'aspect formel du film. Les saxoniquets qui arrivent, qui t'allument les oreilles dès le début, avec les textos qui s'écrivent sur l'écran, c'est bien comme idée, c'est une très bonne idée, voilà. Après, on rentre dans un film qui est un peu chaotique, on sait qu'au fil du film, on va avoir cette espèce de chaos en filigrane, et on a l'impression que ce film va être dans une folie maîtrisée. C'est-à-dire, j'ai envie d'en faire des caisses, j'ai envie que les gens crient dans tous les sens, j'ai envie qu'il se passe des choses complètement folles dans mon film, qu'il y ait des meurtres, qu'il y ait des actions déraisonnées. Mais en même temps, il y a ce côté je contrôle tout, qui m'a un peu dérangé en fait, que je trouve un peu paradoxal. Voilà.
Okay, Nicolas,
Il a dit à peu près ce que je pensais du film. En fait, moi, c'est tout simple. J'ai eu l'impression que le réalisateur, il avait fait une liste de choses horribles à mettre dans son film, et puis à chaque fois, il prenait le plus horrible, quoi. Donc, la musique horrible, le personnage horrible, l'histoire horrible.
La musique est sympa.
La musique est sympa, putain. J'en avais au bout de 10 minutes, j'avais envie de me barrer de la salle, quoi.
C'est jazz.
Ah non, mais moi, j'ai détesté la musique. De A à Z, et voilà. Donc c'est pas ce que là où ça rejoint un peu de Joy Train, c'est que j'ai pas du tout d'attache avec ce genre de film quand je n'arrive pas à comprendre les agissements des personnages. Et là, c'est peut-être puissance 10, quoi. C'est-à-dire que il essaye de, en fait, j'ai l'impression que le réalisateur essaye d'en faire un monstre, parce que pendant toute la première partie du film, il s'interroge, le personnage, il dit mais en fait, c'est parce que je suis moche que j'intéresse pas les filles et tout ça. Mais en fait, c'est pas parce qu'il est moche, c'est parce qu'il est monstrueux, quoi, dans ses attitudes. À un moment, t'as une scène horrible, mais vraiment horrible, et c'est voulu par le réalisateur, où il fait l'amour à la photo de la fille qu'il aime, à même le son, où il est filmé comme une espèce de monstre qui se meut comme ça, avec ses épaules qui remontent comme ça, comme une espèce d'araignée qui est en train de... Ça m'a fait penser au manga érotique, où, avec les gros monstres qui violent les filles, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, hein. Et en fait, bah, c'est ça, il y a une espèce de monstration bien lourde d'un monstre, quoi, de foire. On a l'impression d'être au zoo, quoi. Et je retrouve aucune attache à voir des films comme ça. Moi, j'ai aucune émotion. Je suis juste gêné pour le réalisateur.
Oui, bah, je crois que tu as évoqué à peu près toutes les raisons pour lesquelles j'ai bien aimé le
bah,
film.
Non, c'est après, je comprends que ça puisse faire. Il y a des gens
et les mangas de tentacules et ce genre de trucs. Mais par exemple, effectivement, parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus complexe dans cette scène qui est effectivement montré le devenir monstrueux d'un personnage, le montrer dans tout ce qu'il peut avoir d'à la fois fascinant, d'à la fois de complètement répulsif, puisqu'on est dans ce côté-là, et un peu l'utilisation du free jazz va dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est une musique extrêmement dissonante, mais en même temps qui peut être assez fascinante. Et entre ce côté dissonant et cette fascination, cette répulsion que l'on peut avoir pour les personnages, c'est là que se joue tout l'enjeu du film. Alors, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant, plutôt... avec de très bonnes idées de mise en scène, c'est-à-dire que le film saute aussi d'un genre à l'autre. Ça va commencer comme un drame social. Ça va aller, on ne sait pas trop comment, vers le thriller un peu surréaliste, même le thriller complètement surréaliste. On va avoir des moments complètement grotesques et complètement absurdes. Il y a notamment une course-poursuite dans un hôtel avec des personnages qui passent d'un balcon à l'autre et dans une chambre. Alors là, on est dans, je sais pas,
Fucking dans French Connection, quoi.
Mais...
La scène du métro de French Connection.
Oui, c'est ça, mais on entre même plus dans, je sais pas, dans du comique à la Roll Lloyd. Enfin
non,
voilà,
c'est
enfin, ils font
du
moins des cascades. C'est
burlesque,
burlesque, voilà.
complètement.
Et je trouve que ce mélange des genres, alors, marche de temps en temps, marche un peu moins parfois, parce qu'il y a effectivement ce côté forcé que tu as vu, Mathieu, moi aussi, je l'ai vu dans le film. Il y a certaines scènes où effectivement le réalisateur tient une idée. Il va aller jusqu'au bout de l'idée. Il va jouer. Alors là, il y a un jeu extrêmement intéressant sur la longueur. Mais en tout cas, oui, il va aller jusqu'à l'écœurement de cette idée qu'il va montrer. Il y a une scène où il y a les deux personnages qui commencent à vomir. Ils vomissent l'un après l'autre pendant 3 ou 4 minutes. Voilà. Ça
Mais là, ça m'a fait rire, par exemple. C'est peut-être. Enfin, je trouve le film horrible, mais il y a quelques scènes comme ça qui m'ont fait un peu rire, justement, où il y a une espèce de recul un peu comique, comme ça. Tu parles de la scène burlesque ou la course-poursuite. Ça, à la rigueur, c'est quelques scènes qui m'ont un peu fait rire, où il y a quelques idées de mise en scène qui m'ont bien plu. Mais après, sur l'ensemble, le film, je trouve. Enfin, ça m'intéresse pas, quoi. Après, je comprends complètement que ça puisse t'intéresser et intéresser plein de monde. On n'a pas tous le même cinéma,
à la réflexion, j'ai un peu moins aimé que dans Jerry Train, d'ailleurs, pour le coup, pour ce côté un peu moins, voilà, un peu moins abouti, je trouve, de l'ensemble, et un peu moins réussi de certaines scènes.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est assez drôle, parce que finalement, on est un peu le révélateur du public de Kinotayo, puisque c'est ce qui s'est passé avec Kinotayo. C'était un avis très tranché avec ceux qui ont adoré et ceux qui ont détesté. C'est en même temps, ce film, il est comme ça. On peut pas être mitigé par rapport à Bozo. C'est soit tu le détestes, soit tu l'aimes.
Je suis persuadé que le réalisateur, quand il a fait son film, il voulait justement que
oui,
ça
absolument.
Provoque
ouais,
cette espèce
ouais.
de dissonance comme ça au niveau des avis.
Bah c'est ça. C'est un film provoque, mais moi je trouve que c'est de la fausse provoque. Mmh. C'est de la provoque maîtrisée. J'aime pas trop le. Enfin, j'aime pas trop le côté petit con, en fait. Tu vois, du long métrage, quoi. C'est un peu, comment dire, je vais vous mettre des scènes de viol, je vais vous mettre des scènes de vomi, je vais vous mettre mal à l'aise. C'est un peu comme ce que faisait Lars von Trier au début. C'était, je vais vous gêner, et puis, moi j'adore ça, je prends mon plaisir. En fait, il se nourrit du dégoût des autres. C'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu puéril, en fait. Ça manque un peu de maturité, en tout cas.
Ouais, mais juste 2 minutes. Bah, je parlais de l'aspect un peu comique du film qui m'a bien plu tout à l'heure, mais par exemple, l'aspect. Enfin, il y a un des personnages qui est narcoleptique, en fait, et je trouve que justement, là, pour le coup, c'est bien exploité dans le film. Ça donne des scènes assez drôles. Et c'est vraiment. À la rigueur, je peux me rattacher là-dessus, parce qu'il y a quand même des trucs intéressants dans ce film, mais sur l'ensemble, à la fin, j'avais envie de mourir, quoi, à la fin du film. Quoi.
Pour décrire ces scènes, en fait, il y a un personnage qui s'endort dès qu'il a une sensation forte, donc qui souffre de narcolepsie, et il fait une scène d'action dans un motel avec ce personnage, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, bah, le personnage s'endort, donc il coupe l'action. Et donc l'action recommence quelques secondes plus tard, il se réveille, l'action reprend, il se rendort, etc. Donc il joue sur un humour là-dessus, et ça c'est assez brillant. Ouais.
Peut-être que Tatsushi Omori devrait se recycler dans la comédie.
Je pense aussi, en fait, c'est ça.
Et d'ailleurs, bon, alors on va terminer là-dessus pour le film, et vous pouvez retrouver une interview de Omori sur le site dès la semaine prochaine. Et il se défend un peu justement de ce côté provoque. Donc pour lui, voilà, il raconte une histoire issue des personnages, il revendique cette rupture de ton, mais en tout cas, il tient pas particulièrement à choquer son public ou à être dans la provocation pour la provocation. Il filme les scènes, enfin pour lui, il y a une nécessité interne à la voilà au film. Enfin, vous pouvez lire l'interview, je pense qu'il s'exprime mieux que moi. Il parle pas de nécessité interne à la structure du film, je pense que là c'est moi qui le rajoute, mais donc allez-y. Et donc nous allons arriver aux excellents films maintenant, en tout cas sur lesquels, des films sur lesquels je pense qu'il va y avoir un consensus. Et le premier, c'est le prix de la presse. Donc on était deux ici sur trois, donc à l'avoir décerné. Et je vous propose tout d'abord d'écouter un petit extrait de la cérémonie de clôture, spéciale dédicace pour toi, Mathieu.
Donc maintenant, nous avions aussi un jury de la presse. mais on a juré de la presse qui va changer quatre fois cet après-midi le nom de la personne qui va remettre le prix. Donc je vais le laisser se présenter lui-même. Et il va nous dire selon quels critères la presse a choisi le prix gagnant.
Bonsoir. Bonsoir à tous. On ne savait pas trop décider sur qui s'exprimait, donc on monte à deux, c'est tout ça. Victor Lopez, fondateur du site Estadia.fr et moi-même, Mathieu Rostel, journaliste de Sofine, le magazine Sofine. Et également, au sein de ce jury presse, Antoine Guillot, qui est journaliste et producteur à France Culture, qui n'a pas pu, notamment de sa présence, puisqu'il est en ce moment en train de réaliser et d'intervenir dans une émission sur France Culture. Donc, on s'excuse par avance pour lui. Et donc, du coup, je tiens à remercier le Festival Kinotayo de nous avoir laissé la possibilité de faire partie de ce jury presse, puisqu'on a eu droit en plus à une très bonne sélection, très homogène, qui nous a permis de visualiser différents contours de la société japonaise, qu'elle soit actuelle ou passée. Et au travers de ces 7 films en compétition et même d'autres, donc avec la sélection Kinotayo Classique et Waranotate et Outrage Beyond, on a pu véritablement profiter d'un cinéma japonais qui est très, très diversifié. Voilà. Mais ce qui nous intéressait avant tout, en tant que jury presse, c'était de remettre un prix à un film qui représentait le Japon moderne, le Japon actuel, puisqu'on est quand même le festival du film contemporain, film japonais contemporain, et il était important de remettre un prix pour un film qui ressemblait au Japon d'aujourd'hui et qui traitait de problématiques surtout qui étaient chères au Japon, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Voilà. C'est parfait, super.
Alors, pour remettre le prix, avant que nous expliquions tout cela en japonais, j'invite Pierre-Antoine Gailly, président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, à vous rejoindre en vue de remettre le prix.
Le prix est donc décerné à Black Down de M. Kantaro Oriki Rizono.
Alors, ce qui nous intéressait dans ce film, avant tout, c'était l'aspect assez tarabiscoté du scénario, qui était une forme très ambitieuse, avec une histoire très alambiqué et avec de nombreux twists. C'est un film, je ne vais pas non plus spoiler ceux qui n'ont pas vu. Il y avait également une sorte d'ambition formelle, puisque Black Dawn est quand même un film qui est très beau et un film d'espionnage qui se tient. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'était également le sujet, puisque c'est un film d'espionnage qui se passe entre les deux Corées et le Japon et qui traite des liens géopolitiques entre ces trois pays. Donc on trouvait que ça représentait bien le côté problématique moderne du Japon.
Donc Mathieu, tu as trouvé notre prix de la presse un peu tarabiscoté, alambiqué.
Le scénario du prix de la presse tarabiscoté, parce que c'est un film qui est... La construction du film est assez... assez complexe, on va dire. C'est un film d'espionnage, donc déjà de base, en général, les films d'espionnage sont souvent assez complexes. Et là, en l'occurrence, il y a une sorte de jeu de personnages miroir avec des agents doubles et avec des doubles personnalités qui est assez intéressant. En fait, c'est pour ça que j'avais dit que c'était tarabiscoté durant le discours. Faute d'autres mots plus savants, mais oui, le Black Dawn, c'était ce qui était intéressant, c'était vraiment ce scénario très bien construit, en fait, très riche.
Et toi, Nicolas ?
Moi, j'ai pas grand chose à rajouter à ce merveilleux discours, hein, tout était dit. Mais bon, non, moi, j'ai passé un bon moment. Je trouvais que c'était un bon film d'espionnage, efficace, peut-être un petit peu long, peut-être un peu trop classique, mais j'ai passé un bon moment. Voilà,
tu lui aurais donné le prix de la presse aussi ?
Non, bah moi je l'aurais donné à A Story of Inosuke, mais...
A Story of Inosuke était...
Non, je l'aurais dit, j'aurais donné à A Great Passage, mais...
Et sachant qu'il y a mon
veto sur... Bah je l'aurais donné à celui-là, alors, mais... Voilà, par défaut, quoi. Mais... Non, ça vaut pas un prix de festival, quoi. Ça vaut... C'est un bon film pour passer un bon moment, quoi, mais c'est pas non
plus... Puis c'était le... Pour le coup...
On avait bien mieux, quoi.
De toute la sélection, c'était le seul qui avait le mérite de soulever... des questions qui intéressent ou tout du moins que les Japonais se posent puisqu'on a eu dans toute la sélection on a eu soit des films qui se passaient dans les années 80-90 donc qui étaient un peu anachroniques, un peu passés tout simplement, ou alors on avait des films modernes, mais ces films modernes c'était des histoires un peu introspectives. Il n'y avait pas vraiment de l'histoire n'existait pas dans le Japon, dans le pays en lui-même. Et là, en l'occurrence, Black Dawn permettait de donner au film une sorte de d'une autre dimension en fait. Donc d'une part l'aspect géopolitique puisque c'est un film d'espionnage qui se passe entre les deux Corées et le Japon, et d'autre part aussi de poser la question du nucléaire, qui est une question qui depuis 2011 est dans toutes les bouches des Japonais. Et c'est vrai que ça, ce film-là mérite de poser deux problématiques très prégnantes au sein du Japon moderne. Et pour un festival comme Kinotayo, qui est le festival du film contemporain japonais, le film tombait à pic, quoi.
Oui, ouais, c'est bah, tout à fait, sauf... Alors, j'aurais une petite réserve, peut-être que Bozo aussi est quand même très... très ancré dans le réel et dans des problématiques contemporaines, vu que c'était il y a 2 ans justement, c'est tiré d'un fait divers d'un étudiant qui a fait une tuerie à Akihabara à coup de couteau en sortant d'une voiture. Et c'est vrai que le film reprend des messages qu'il a laissés sur son téléphone, etc. Donc il est aussi très en prise avec le Japon contemporain. Mais c'est vrai que ça reste sur un mode presque intime, personnel, et qui est plus de la place de l'individu dans la société japonaise, alors que Black Dawn était le seul, peut-être avec Japan Lies justement, mais pour ouais. d'autres motifs, à en fait interroger la place du Japon dans le monde en fait, la place du Japon dans le monde, et à poser des problématiques qui sortent un peu de l'individu japonais aujourd'hui ou il y a quelques années dans la société japonaise. Et c'est en ça que le film est extrêmement intéressant sur ce qu'il dit des relations internationales, notamment entre la Corée d'aujourd'hui, le Japon d'aujourd'hui. Bah, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit sur le nucléaire. C'est vrai que cette interrogation d'un Japon sans nucléaire, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement une question et une problématique qui est très, très contemporaine, très, très liée aux problématiques d'aujourd'hui. Donc le film a peut-être une ampleur que les autres films n'ont pas, c'est-à-dire une ampleur qui ne relève pas de l'intime, justement, qui relève d'autre chose. Et en même temps, toutes ces problématiques, disons, internationales, géopolitiques, d'espionnage, sont comme prises en charge par des personnages qui les intériorisent complètement, en fait. Mmh. C'est-à-dire que les personnages portent en eux ces stigmates, des relations internationales qu'il y a pu y avoir sur tout le XXe siècle entre le Japon et la Corée, notamment à travers un couple donc qui est formé par on va apprendre que l'homme est coréen, mais c'est en fait un espion coréen, une femme japonaise, et qui ne vont pas arriver à être ensemble. Ils s'aiment quand même, on comprend qu'ils s'aiment, mais finalement ils ont des idéaux nationalistes qui ne vont pas pouvoir être ensemble. Et à l'inverse, les deux espions japonais et coréens vont finir par pouvoir travailler ensemble. Pour justement, on va dire, alors il y a une phrase un peu grandiloquente comme ça, il faut qu'on arrive à se comprendre pour sauver le monde. Ouais. Mais c'est un peu ça finalement, ouais. Ces deux pays qui ont été opposés pendant des années, qui portent encore les stigmates de tout ce qui s'est passé avant même la Seconde Guerre mondiale, arrivent à s'entendre aujourd'hui pour des questions aussi importantes, notamment que le nucléaire. Ouais. Donc voilà, c'est quand même un film très... très très ambitieux, en tout cas dans ces thématiques. Je le trouve très intelligent formellement,
Il arrive à concilier justement une aspérité cinématographique avec des problématiques qu'on retrouve dans des séries télé, puisque c'est adapté d'une série télé. Et il y a des moments de suspense un peu à la 24 heures chrono ou Homeland qu'on retrouve dans le film. Donc c'est aussi intéressant à ce niveau-là.
J'ai rien à ajouter, je crois que tout a été dit, c'était très bien. Si ce n'est peut-être que il y a un truc qui est très très intéressant, c'est qu'en plus la peur du nucléaire, pour une fois, n'est pas traitée de la même façon. C'est-à-dire que c'est pas traité du point de vue japonais, dans le sens où la peur du nucléaire vient de la Corée du Nord, en fait. Et finalement, on y pense peu. À chaque fois, on pense le Japon, nucléaire, on pense Fukushima, on pense que ça va leur péter la gueule en interne. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi un ennemi. Il y a la Corée du Nord qui est à côté, qui est censée posséder la bombe atomique. Et justement, ce film a le mérite de traiter le point de vue un peu nord-coréen, en fait, du nucléaire. Voilà. Donc je trouve que c'était intéressant aussi cet aspect-là.
Et avec des zones... tout n'est pas noir ou blanc dans le film. Ah, voilà, non, les relations entre les personnages on comprend les motivations qui les poussent à faire ce qu'ils font.
Oui, c'est pas les Coréens du Nord sont les grands méchants.
Exactement.
Les Coréens du Sud sont les grands méchants.
Ce qu'on trouve dans beaucoup de polars coréens ou des films d'espionnage coréens, il y a une vision de la Corée du Nord qui est extrêmement
caricaturale. Il n'y a pas de manichéisme.
Dans The Agent, pas non plus, c'est un film sud-coréen et finalement le héros est un nord-coréen. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'ouverture comme ça vers. Enfin, la Corée du Nord et
The Agent,
c'était pareil un peu. Il y a moins de diabolisation de la Corée du Nord.
Il y a une sorte de. Pas de la créer de l'empathie, mais il y a une sorte de d'installation
de compréhension. Ils essaient de comprendre pourquoi.
Ouais, d'une intrigue où on t'explique qu'en fait, s'ils font ça, c'est qu'ils ont peut-être des motivations. Mm-hmm.
Il y avait ça dans The Secret Union aussi, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Ouais. Qui mettait en scène un agent secret nord-coréen et sud-coréen qui était obligé de cohabiter. Donc c'était plus sur le mode du buddy movie, c'était beaucoup plus léger.
Ouais.
Il y avait un peu ça sur les deux Coréens.
Ouais.
Et bien nous allons arriver au dernier film de la compétition.
Qui était donc le premier choix du prix de la presse au départ. Mais qui finalement a été le prix du public, parce qu'on pouvait pas décerner et le prix de la presse, pour un seul et même prix, le prix de la presse et le prix du public, donc le soleil d'or et le soleil d'argent. Donc on a dû céder notre prix.
Voilà. Mais finalement, comme vous le voyez, on est assez. Moi, je suis pleinement satisfait du palmarès au final, puisque Story of Yonosuke, donc c'est le film dont on parle, vous l'avez compris. Donc, qui est un film d'Okita Shiuchi, qui devait être notre prix de la presse et finalement Soleil d'Or. Donc, c'est très bien si le public en plus l'a aimé. Je suis encore plus content que le deuxième pour le public était loin d'être un choix que j'aurais fait, puisque c'était The Great Passage qui était deuxième. et que Black Dawn, je crois, était avant-dernier dans le choix
du
public, donc très très loin du côté, certainement à cause de son scénario
tarabiscoté.
Exactement. Donc A Story of Shinozuki, est-ce que Nicolas, tu partages notre enthousiasme sur le film?
Ouais, tout à fait, parce que là encore une fois on parle d'un personnage comme pas mal de films de ce Kino Taiyo, d'un espèce d'introverti un peu exclu social au niveau de la société qui c'est un peu l'anti-Bozo, l'anti-de Jory Twain, c'est-à-dire que là c'est vraiment le côté positif de ce genre de personnage qui ressort. Et donc, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas trop aimé l'aspect un peu shonen de Great Passage, mais là, on est complètement dans le shonen, par exemple, avec ce personnage, puisque le principe, c'est toutes les personnes qu'il va rencontrer au fur et à mesure de son existence, il va leur apporter quelque chose, souvent quelque chose de bien, d'ailleurs, qui va les faire avancer dans la vie. Ouais. C'est un catalyseur.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que je trouve... Enfin, j'ai trouvé ce personnage assez beau, quoi. Et voilà, j'aime beaucoup le film parce que bon, il dure 2h50, je crois. 2h40. Et ça passe comme si c'était un film d'une heure trente, donc déjà on s'ennuie pas, c'est déjà un exploit. Et puis je trouve que la construction narrative, tout est brillant dans ce film, je trouve. Il y a une mise en scène, enfin une maîtrise de la mise en scène assez bluffante. Je pense notamment au dernier plan séquence qui est poignant et bouleversant qui arrive. Enfin, voilà, on est déjà conquis par le film, et puis le réalisateur il te met et te lance ça, quoi, et tu fais waouh, génie quand même. Et voilà.
Je reviens sur l'aspect Chanel, en fait, c'était plus l'aspect du respect des conventions du Chanel qui me gênait dans The Red Passage. Moi, sinon, j'ai rien contre des Chanel, et je trouve que dans cette classification, il y a des réussites tout à fait mémorables. D'ailleurs, j'ai interviewé le réalisateur Okita, et je lui ai demandé s'il avait pensé à Son Goku pour son personnage, en fait, parce qu'il a cette naïveté que peut avoir le personnage, et ce côté un peu voilà, personnage complètement. Complètement naïf, innocent, candide, et qui va révéler les personnages d'autres. Alors, il m'a dit qu'il n'y avait pas pensé, mais qu'il comprenait ce que je voulais dire quand même. Quoi. Enfin, je pense qu'il a été un peu poli, enfin voilà, à la japonaise, pour pas me dire bon, c'est n'importe quoi, mais voilà. Quand même. Toi, Mathieu, oui, t'as beaucoup aimé aussi.
Oui, ben j'ai comme disait Nicolas, c'était ce qui était très intéressant, c'était la façon dont était tourné le film, en fait, donc la façon dont était construit le film sur le fait qu'on va avoir des sortes de flashbacks en quelque sorte, enfin de flash forward, je sais pas comment, flash forward de comment les gens ont évolué une fois qu'ils ont été au contact de Yonosuke, donc le personnage principal, et voir en fait l'ampleur de l'influence de cet homme qui au départ apparaît comme quelqu'un de très fragile et de très maladroit, qui finalement a été, comme on disait, le catalyseur, quoi. C'était vraiment il y avait vraiment une dimension très poignante dans ce film, quoi. Il y avait quelque chose de fort, de, je sais pas comment on pourrait dire, ouais, de touchant, je sais pas, c'était vraiment, c'est le mot, ce film est touchant, quoi. C'est ce qui avait un peu dérangé Antoine, mais
oui, il trouvait que c'était un peu voilà, un peu gentil, donc effectivement le pitch est assez simple. C'est un jeune homme, donc Yonosuke, qui arrive à Tokyo en 87, donc il débarque pour poursuivre des cours à l'université de Tokyo, et en fait dans son parcours il va croiser différentes personnes, et le film va ensuite faire des allers-retours entre le présent de la narration qui est 87 et donc on va dire des flash forward, ouais, ouais. Qui vont
si c'est bizarre de dire ça, mais
qui vont montrer ce que les personnages qu'il a croisés sont devenus à son contact, et à chaque fois il y a une scène ou deux où ils se souviennent en fait de ce personnage, et on va voir que finalement son passage a aidé ces gens à se trouver, à s'accepter. Moi je trouve de manière bien plus simple que dans les autres films qu'on a vus, enfin notamment The Great Passage. Il n'y a pas ce côté où voilà, faut un peu forcer pour que ça passe. Enfin, je trouve que le film passe pratiquement naturellement. Enfin, il n'y a pas de gros sabots. Tout est fluide, clair, calme et très drôle aussi. C'est vraiment une comédie.
C'est un film en plus qui a le mérite d'alterner de manière très subtile entre le poétique burlesque, j'allais dire, mais c'est pas vraiment du burlesque, mais plus, ouais, entre le poétique et le comique, parce que il y a cette fameuse scène de la neige, quand la neige tombe, ouais, c'est super beau, mais à côté de ça, on va avoir cette scène où le mec, où Yonosuke prend des cours de samba, et qu'on le voit danser la samba, ou quand on voit cette fameuse ce défilé où il se casse la figure, et il regarde la vidéo en VHS, il n'arrête pas.
Et puis même au niveau des discussions entre les personnages, enfin il y a plein de scènes marrantes, par exemple quand il parle avec un de ses premiers amis là dans le sauna au début du film, je crois, c'est dans une espèce de, là, ouais, c'est, ouais. Il parle de sexualité, mais c'est à mourir de rire, quoi.
Oui, absolument. Il y a ce côté teen movie, ouais. En fait, il y a le côté teen movie, ouais, qui est super fort dans le film, dans la narration précédente, comme tu disais, en 87, et il y a ce côté-là, ouais, très questionnement des vingtenaires sur comment ça marche le sexe avec les filles, etc., et puis la charnière, les décisions à prendre, est-ce que je prends des cours de samba ou est-ce que je prends des cours d'échecs, et enfin c'est un peu ça, quoi. C'était assez marrant, quoi.
Ouais, puis voilà, ça alterne entre les scènes humoristiques comme ça, et puis aussi des vraies scènes poignantes. Je pense par exemple à la scène où, en fait, pendant tout le film, il y a une trentenaire là qui rencontre à plusieurs reprises, ouais. Et justement une espèce de suspense comme ça pour savoir si ils vont un peu finir ensemble ou pas, ou s'ils vont coucher ensemble. Et du coup, dans la dernière scène où ils se rencontrent, c'est quand elle est avec sa mère, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'hôtel, là. Et je trouve que c'est une scène d'une mélancolie assez bouleversante. Quand elle, parce qu'en fait, c'est, on a l'impression qu'elle s'est un peu servie de lui tout le long du film pour accéder à des gens, ou je ne sais plus exactement, mais là, puis lui, à chaque fois, elle a été très serviable, il l'a aidé, et là, on a l'impression qu'elle le regarde avec presque avec amour, enfin. C'est, mmh. C'est la seule personne, finalement, parmi tous les hommes qu'elle côtoie dans son milieu, qui l'a écouté, qui l'a aidé, qui pense à elle, quoi, voilà.
Donc, parce que c'est un personnage qui n'a pas d'arrière-pensée en fait. Voilà, enfin, c'est un personnage qui est très, qui est extrêmement attachant. C'est que, c'est qu'effectivement, il vit sans arrière-pensée, ce qui est très, ce qui est assez passionnant de suivre effectivement l'évolution de ce personnage, des personnages qui l'entourent. Et l'autre chose qui m'a vraiment marqué dans le film, c'est la précision de la mise en scène, et notamment dans le sens du cadre et de l'absurde qu'il y a dans les touches humoristiques qu'il peut avoir, moi, qui m'ont fait penser un peu à du Wes Anderson, par exemple, voilà, dans ce décalage, enfin, un peu en japonais. Donc voilà, en tout cas, je pense que c'était un prix, un soleil d'or unanime, mérité, donc... Et une très très belle découverte, en tout cas, de Timothée.
Mais bon, 2h40, ça m'étonnerait qu'il sorte en France un jour, malheureusement.
Oui, malheureusement. Et je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que les réalisateurs... tu disais que c'était étonnant que les films se passent souvent dans les années 80 ou 90, en fait. Et moi, je pense que c'est dû au fait que les réalisateurs sont relativement jeunes, en fait, et qui s'approchent de la quarantaine. Et que du coup, ils doivent s'inspirer de leur, je sais pas, leur vie passée, quoi.
Oui, il y a un truc de finalement un peu autobiographique, je pense.
Absolument, ouais.
Non, en 87, ouais. Je crois que le. Alors, justement, le réalisateur était un peu plus jeune.
Okita est de 77.
Il est de 77, ouais. Donc, mais c'est effectivement une.
Bah, il a 10 ans. Il a 10 ans en 87. C'est la période où on commence vraiment à se rappeler des. Enfin, on a nos premiers gros souvenirs et. Peut-être que ça lui, je sais pas, il a peut-être voulu faire un film sur tout ce qu'il avait marqué en 87, sauf que c'était pas évident de faire un film sur un gamin de 10 ans. Peut-être c'était plus facile de faire une sorte de teen movie, quoi. Je sais pas.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour des films en compétition.
Oui, je crois qu'on en a pas oublié.
Alors, Kino Taio se tenant tout le mois de janvier, donc à partir de demain d'ailleurs à Metz, puis à Strasbourg, puis à Cannes, puis à Le Canet, puis à Saint-Malo. Donc, si certains films passent près de chez vous, vous pouvez aller les voir. On va faire un dernier tour de table pour vous conseiller. S'il y avait un film à voir, qu'est-ce que vous conseillerez, Mathieu ?
Outre The Story of Shunsuke, bien entendu, qui paraît évident, moi je dirais vraiment qu'il ne faut pas rater Homme, Porc et Loup. Je ne sais pas s'il est diffusé... en province, mais
il semble pas, je crois que c'était spécial à la Maison de la Culture.
Mais si jamais vous avez l'occasion de voir ce film, profitez-en, et surtout si vous avez l'occasion de vous rendre à la Cinémathèque pour voir cette rétrospective Kinji Fukasaku qui aura lieu en mai prochain à la Cinémathèque, courez-y, puisque vous aurez sans doute la chance de voir Homme, Porc et Loup, qui est un superbe film, mais également d'autres films de Fukasaku, qui est quand même un cinéaste un peu sous-estimé en Occident, alors que c'est un très très grand réalisateur qui a toujours été considéré comme un faiseur, mais qui là pour le coup
surtout assez méconnu en fait pour,
ouais, absolument, ouais.
Nicolas, s'il y avait un film,
bah moi ce serait outre Story of Yunusuke aussi, ce serait Great Passage, n'en déplaise à Victor, je trouve que c'est quand même un très beau film. Et puis aussi Oshin, quoi, c'est un film qui était hors compétition, qui est aussi un très beau film, si vous aimez les films qui se passent au début du XXe siècle au Japon, voilà, c'est fait pour vous.
Oui, bah pareil, je crois que, voilà, en tout cas, s'il y a un film à voir, même s'il dure 2h40, 2h50, essayez de trouver le temps d'aller voir A Story of Shunosuke, qui est quand même un très beau film. Je pense que Black Dawn, si vous aimez les films d'espionnage, peut aussi être pas mal, et moi je conseillerais donc pour les aventureux d'aller voir Drudgery Train et Bozo, qui sont quand même deux films en tout cas intéressants et originaux.
Et pour ceux qui aiment la soupe, faut pas hésiter à aller voir La Rosée des Cieux.
Moi, j'aime bien la soupe, hein, pourtant, mais bon, voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour conclure, un dernier conseil, un dernier mot à nos auditeurs, Nicolas.
Bon, non, on a hâte d'être à la prochaine édition de Kinotayo, en espérant que les films qui seront présentés seront du même niveau, voilà. Et c'était un agréable moment, surtout les soirées sushi, là, les deux soirées d'ouverture avec les sushis à la fin, c'était sympa.
On remercie
les partenaires du festival, des très bons whisky et du saké, et puis des très bons les petits chocolats noirs aussi étaient très bons. J'en ai rempli mes poches, donc mes excuses pour ça.
Et vive le potage. Vive le potage.
Quant à moi, juste une information, le prochain festival de Kinotayo se déroulera en novembre 2014.
Il durera
plus longtemps. Il sera étalé sur plus de semaines. On nous a déjà promis une sélection supérieure à celle de cette année. Donc, on verra. Ça dépend aussi effectivement de la production cinématographique japonaise de cette année. Donc on va voir si des films indépendants vont être produits. Donc voilà.
On est sûr qu'on n'aura pas le Koreeda. Ça c'est sûr.
Oui. Ouais. Bon. Au moins, vous pouvez toujours aller voir le Koreeda d'ailleurs. Tel père, tel fils qui doit toujours être en salle. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où l'on parlera de All Boy de Park. Pardon. All Boy de Spike Lee, donc, et des remakes américains. See you, Space Cowboys.
Salut.
Salut.